De Fougères en libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Heureux de vous retrouver pour continuer le chemin que Monique Leroux Serre a suivi à pied et en solitaire, le chemin de halage de la Mayenne, durant laquelle elle a rédigé dans la tradition des poètes japonais un journal de voyage mêlant prose et haïku, c'est ce qu'on appelle un haïbun. Reprenons notre chemin. Monique Leroux Serre sort de l'hôtel Beau Rivage. J'ai remonté un peu la rivière vers Mayenne. Après le pont de Saint-Baudel s'étend une zone boisée pourvue de tables de pique-nique pour le loisir des urbains. Puis on débouche sur une petite route goudronnée bordée des premières constructions, des usines et les installations de traitement des eaux. Je hais ces abords d'agglomération. On repousse toujours le pire sur le pourtour de campagne, alors qu'on devrait à l'inverse laisser la nature entrer dans la ville. Je fis demi-tour. Revenu au Beau Rivage, j'ai dîné seul en terrasse, entouré de tablées d'amis, de famille, puis je suis allé m'asseoir face à la rivière et au soleil qui s'abaissait à l'horizon. Sur le banc, le temps s'arrête longuement. Bruissement des feuilles. Sur le banc, le temps s'arrête longuement. Bruissement des feuilles. C'était le premier vrai soir d'été et l'un des jours les plus longs de l'année. Je me laissais bercer par le bruit de la chute, les derniers gazouillements d'oiseaux qui se font plus vifs avant l'arrivée de la nuit. J'entendais de nombreux roucoulements de tourterelles turques dans le grand talus boisé derrière et de temps à autre la cloche de l'église de Saint-Baudel qui sonnait les heures. J'apercevais son clocher au-dessus des arbres de la rive d'en face. Au pied du banc, un beau pinson me tenait compagnie. Ça et là, devant l'hôtel, au bord de la rivière, des groupes de la ville toute proche étaient installés autour d'un pique-nique. De jeunes couples déambulaient main dans la main. Une jeune fille allait seule, endimanchée, habillée très court d'une robe à volant de dentelle blanche sur des jambes nues un peu épaisses. Blonde, un sac à main en cuir verni, elle avançait maladroitement sur ses hauts talons. On sentait une personne fragile, proie facile, qui ne connaissait pas les codes. En effet, un homme bedonnant, à la cinquantaine bien passée, se retourna sur elle, la déshabilla du regard de la tête aux pieds, avança, se retourna encore alléchée. Je la surveillais un peu. J'avais peur qu'il arrive quelque chose à cette naïve promeneuse si jeune. J'étais là devant la rivière, comme petite fille au moulin de Montguillon, au bord de l'Herve, chez mon grand-père, à Saulges, comme dans toutes les fermes où j'ai habité enfant, le long du Dora, du Vassé, puis de la Vège. Le calme du soir, immense et profond, imprégnait les esprits. Aucun éclat de voix. Le soleil couchant abaissa un moment son or dans le saule majestueux, puis il disparut derrière l'horizon. C'était hier soir, près de la chute de l'église, dont le bruit en pensée m'endort. Deuxième jour. Ce matin, le temps est à nouveau couvert. En reprenant le chemin à mon girou, où je l'ai laissé la veille, je m'aperçois que je n'ai pas mon bâton. Je pense l'avoir oublié où j'ai dormi, et j'ai grand regret de ce compagnon comme Ryokan qui pleurait la perte de son bol à aumône, son enfant bol. Quand j'emprunte les premiers mètres du chemin de halage, le gardien de la maison de la rivière vient d'un pas tranquille vers moi. Il s'approche et je prends conscience que le bâton qu'il a dans la main est le mien. Je l'ai oublié la veille quand j'ai acheté une carte postale. Il savait que je reprendrais le halage au matin et m'attendait. Ah, ces attentions les uns aux autres, si précieuses. Il ne fait pas froid, mais il commence à bruiner. C'est comme un gros brouillard qui tombe. j'enfile mon capuchon. Par la pluie et les nuages bas, toute lumière est amortie. Des corbeaux voltigent, dans l'ombre verte des charmes, en ombre chinoise. Des corbeaux voltigent, dans l'ombre verte des charmes, en ombre chinoise. Je marche vers l'aval avec la rivière qui coule à ma droite. Sur la gauche, je longe des espaces forestiers un peu marécageux. La végétation est très dense, vivifiante aussi, mais un peu sombre. Philippe Jacotet parle de ces ombres épaisses et froides. On oublie à quel point l'eau et le végétal sont présents dans notre univers tempéré, à quel point cette profusion d'eau et de verdure est un bienfait. Par l'ouverture d'un pré, j'entrevois un arbre tombé dans l'herbe. On l'a coupé là, couché sur toute sa longueur, en grands tronçons comme les gros rouleaux des piliers d'un temple grec effondré. À 1 ou 2 kilomètres de mon point de départ, l'on aperçoit le toit d'une maison isolée à travers les arbres, un homme qui marche rapidement, s'approche du halage par un chemin non goudronné. Je le trouve bizarre parce qu'il s'abrite sous un parapluie blanc et très petit, comme celui d'une petite fille. À quoi tiennent la confiance et les préjugés? Il prend le chemin de halage à ma suite. Je pense, ce sera la seule fois, à la petite bombe lacrymogène, facile d'accès, dans la poche extérieure de mon sac. À ma grande surprise, en effet, beaucoup de proches, mes enfants, des amis, à qui je parlais de mon projet, s'inquiétaient sur les risques à marcher seul. Les barrières sont invisibles, le langage les nie, mais les femmes ont pris l'habitude d'évoluer dans un cadre malgré tout très restreint. Comme il était hors de question que je renonce au projet d'écriture qui me mettait en route, j'ai décidé de prendre des précautions et d'emmener avec moi une arme de défense pour contrer une éventuelle agression ou éloigner d'éventuels chiens errants. J'avance donc à mon rythme, mais n'aime pas savoir cet homme derrière moi. Alors, au bout de quelques centaines de mètres, pour me laisser dépasser, je m'arrête et je prends quelques clichés d'une touffe de fougères sous la pluie. Au moment où il arrive à ma hauteur, il reste à distance et m'adresse quelques mots affables et rassurants. « Vous profitez du calme ?» Je sens alors dans son attitude et dans ses mots que non seulement il n'a pas de mauvaises intentions, mais qu'il veut montrer son respect de l'autre. Riche de cette bénédiction, étymologie, le fait de dire du bien, je foule de nombreux kilomètres, loin de toute habitation, de tout humain. Pas de ville proche, aucun village en vue. Des écluses non habitées et aucun banc puisque les promeneurs sont si rares. Ce sera la partie du halage la plus déserte, la plus sauvage que je parcourrai. Mes compagnons de vie sont les herbes, les fougères, les arbres, les iris, les canards, les grenouilles, les libellules. Le bleu ciel du myosotis entre les larmes puissantes des touffes d'iris. Le bleu ciel du myosotis entre les larmes puissantes des touffes d'iris. Par une trouée dans une haie, soudain, un regard doux me fixe, celui d'une vache noire et blanche qui allait alors son veau déjà un peu grand. Je la prends doucement en photo. Dans la faible lumière des feuillages, ses yeux brillent, phosphorescents. Très longtemps je marche, seul, le corps en pleine forme, sans fatigue, sans douleur aucune, ni aux jambes, ni au dos, ni aux pieds. Le sac ce matin, contrairement à hier après-midi, me semble léger. Le même pourtant, excepté la cape de pluie que je porte sur moi. J'entends les innombrables oiseaux. Bien protégés sous ma capuche, je les imagine au nid. Quelques brindilles sèches de l'année passée, quelques lichens mousseux pour matelasser et isoler le fond, et puis une poignée ou deux de poils ou de laine d'un autre règne, récoltés sur les piquants d'un fil barbelé, sur l'écorce rugueuse d'un vieux tronc où l'animal s'est frotté. Thank you. De Fougères en Libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Je marche sur la terre avec, toujours plus haut, les arbres et les oiseaux. Je sais que lorsqu'on sera mort, lorsque je serai morte donc, on nous couchera sous la terre. Certains d'entre nous disent que nous renaîtrons, autres. J'aimerais tellement être un jour oiseau. J'aperçois souvent, jour béni, sur des prés de l'autre côté, plus exploités de la rivière, dans des champs en butte, comme dans la ferme de mon enfance, beaucoup de vaches de différentes races, de différentes couleurs, nombreuses ou en petits groupes, parfois une ou des mères avec leurs petits qui têtent de temps à autre. Je vois ici et là des moutons, ailleurs une jument blanche et son poulain noir dans un pré en pente rempli, c'en est impressionnant, de digitales et de molaines fleuries qui se reflètent masses violettes et jaunes sur la surface de la rivière. Loin de tout, pour rien, tout un pré de molaines jaunes et de digitales pourpres. Loin de tout, pour rien, tout un pré de molaines jaunes et de digitales pourpres. Ivre de nature et de liberté, je marche d'un bon pas. Non, que j'ai affaire, qui me presse, mais parce que c'est mon pas. Certains qui me verraient passer se demanderaient peut-être où je vais ainsi. Comment leur dire que je vais là où je suis déjà et où je marche d'un bon pas? Que ce qui me préoccupe, c'est l'ici et maintenant. Comment leur dire que je veux capter l'insaisissable, que je quête, indigente, que je me décale du monde, de ceux qui mendient l'argent et s'en contentent, de ceux qui mendient les regards séduits et s'en satisfont, de ceux qui quêtent l'hostie religieuse et qui s'y fondent. Je quête encore autre chose, entre poésie et mystique. Je ne suis pas encore prête à accepter la fin, à mourir, marcher pour être là, et heureuse, et béate d'être au monde. La pluie s'arrête, l'eau de la rivière coule imperceptiblement, infiniment, de la source au grand tout, en lent déplacement entre les îlots de nénuphars et les bancs de roseaux, ou en larges et profonds virages entre des masses de roches anciennes. Elle progresse doucement à l'ombre des aulnes, des frênes, des peupliers argentés, des saules. Elle court plus rapidement, plus gaiement sur les pierres qui affleurent, ou bien à grand fracas dans les portes et les chutes du barrage. Je marche et les écluses défilent, très nombreuses sur cette portion. Je dépasse d'abord celle de Bas-Ambers, avec ses volets verts sombres envahis par la vigne vierge. Dans le jardin, les digitales et les roses adoucissent la géométrie des buis taillés en boule. Aux fenêtres sont accrochés des rideaux blancs en dentelle dans le style des brises-bises de Belle-Île. Mais les écluses suivantes sont inhabitées. Les maisons abandonnées sont encore bordées de quelques fleurs vivaces qui sent sauvages. Des jardins, autrefois bien aimés, sont livrés à eux-mêmes. Mais en friche ou en jungle, les plantes, plus fidèles que les hommes, continuent de s'épaissir, de fleurir follement près des arches, des portillons et des maisons qui glissent vers la ruine. Devant l'écluse du port, pourtant déserte, une barque remplie de terre a été plantée de jeunes bégonias et capucines. La maison éclusière de la Nourrière a des volets écaillés bleu ciel qui restent clos, et à droite du perron, un rosier rose dragé en fleurs. Celle de la Richardière a son jardin totalement envahi par des plantes non taillées qui se disputent l'espace et la lumière. Un figuier semble gagner la partie. Dans la mêlée de cette jungle, quelques maigres fleurs d'un seringa l'emporte par le parfum. Au barrage suivant, étonnamment très arqué, un arbre mort entier est resté bloqué contre la falaise de pierre de l'autre rive. Ici, en pleine nature, la mort fait partie du paysage. Je fais une pause. À droite et à gauche, court le long ruban clair du chemin. Derrière moi, s'étend une immense peuplerée, et devant, l'autre rive arborée. Dans la lumière, les touffes de silène et la dentelle des fougères se découpent sur la surface réfléchissante de l'eau. Le calme est incommensurable. Les oiseaux chantent avec vivacité, les moineaux, les mésanges, les chardonnerets, les verdiers et surtout les pinsons. Dans tout ce vert, même si le ciel est chargé, quelle paix d'être là, seul pour tout cet espace, à perte de vue, à perte d'ouïe. Quel est ce poète chinois? Ou n'est-ce pas plutôt le japonais Kamo no Shomei dans ses notes de ma cabane, qui disait que les beaux paysages n'ayant pas de propriétaire, chacun peut, les contemplant, trouver consolation. Ils sont, c'est vrai, donnés à tous, sans prix, sans limite. Pourquoi si souvent l'oublions-nous? Pendant que je suis assise sur le rebord herbu du chemin devant la Mayenne, la vie du monde, ailleurs, partout, continue. Je reprends ma marche et m'émerveille devant l'existence et la place de chaque chose, fourmi comme étoile. Je m'extasie devant la multitude des êtres et l'unicité de chacun, de chaque visage. Être consciente de cette chance incroyable, indicible, de vivre. Marcher seul sur le halage pour dire qu'à cet instant-là, loin de tout, de tous, la lumière se déverse, que les arbres bruissent, que l'eau suit son chemin, avec insectes, poissons, oiseaux, que je suis vivante, ici et non partout, à cet instant-là, et pas éternellement. Plus je m'approche de mon flour, plus je retrouve un peu de vie. Passe un groupe de cyclistes, une dizaine, des hommes et des femmes en maillots colorés et casques. Ils me saluent de la tête gentiment alors que je suis assise au bord du chemin, en train d'écrire. Quand ils s'éloignent, je les entends deviser en anglais. Parfois les gens d'ailleurs connaissent mieux que nous ce qui fait l'attrait de nos régions. D'où la nécessité, le bienfait, de fréquenter les étrangers. Dans la tiédeur qui s'installe en fin de matinée, je suis saisi par l'odeur pénétrante du foin humide sur une vaste prairie. Au pied des peupliers, un petit champ d'ondins bordé d'orties. Au pied des peupliers, un petit champ d'ondins bordé d'orties. À l'écluse de Corsu, de gros travaux sont en cours. On a détourné en partie le flux de la rivière par des amoncellements de caillasses pour assécher la zone où l'on pose une turbine nouvelle génération. Déjà, on a édifié le bâtiment en bois qui recevra la centrale, et deux hommes près d'un camion blanc sont occupés à construire un ponton neuf destiné aux bateaux en attente. Juste avant l'écluse de Montflour, sur la rive d'en face, deux hommes, outillés de tronçonneuses, coupent une petite plantation de peupliers arrivés à maturité. Ils s'attaquent à un arbre. Courbés de chaque côté sur leur engin, ils entaillent le tronc. La vallée résonne de la stridence des scies comme de longs et terribles hurlements de désespoir qui glissent sur la surface de l'eau. De temps à autre, les bûcherons font une pause pour estimer l'avancée de la coupe, puis ils s'y remettent. Quand ils décident de passer à une autre étape, l'un des élagueurs monte sur le Manitou, l'approche de l'arbre entaillé, et avec sa pelle, qu'il lève comme une grosse mâchoire, il en serre à 2 ou 3 mètres du sol le tronc pour le bloquer. L'autre homme resté à terre se rapproche et continue la coupe avec sa tronçonneuse. Quand cela lui paraît bon, il se recule pour se mettre à l'abri et celui qui conduit le Manitou ouvre sa pelle et s'en sert pour pousser l'arbre face à lui, un peu, encore un peu, jusqu'à ce qu'on entende le craquement, le déchirement des fibres du tronc qui se penche de plus en plus avant de s'affaisser lourdement sur le sol en rebondissant avec d'énormes bruits sourds. Le conducteur de Manitou reprend dans sa mâchoire de fer le tronc couché et déplace l'arbre dans un lieu plus propice pour le débiter cet après-midi, car c'est l'heure du déjeuner. Je les vois tout éteindre et quitter leur chantier. Moi aussi, je vais déjeuner à la guinguette de Montflour. Thank you. De Fougères en Libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Quelques tables d'ouvriers ou employés sont déjà occupées par des hommes uniquement qui se nourrissent sans se parler. Une famille est installée à une autre table. La femme enceinte s'occupe d'un enfant encore petit. À côté, déjeune une tablée de quatre couples de cyclistes, des retraits jeunes et délurés, passablement bruyants. En les écoutant, je comprends qu'ils circulent sur les routes de la région et non sur le halage. L'unique serveuse est jeune et très dynamique. Habillée en tenue pratique et sans recherche, un peu maigre, elle ne garde pas les deux pieds dans le même sabot, diraient les anciens d'ici. Elle court à droite, à gauche, sans fatigue, toujours gentille. Elle m'est fait penser à Carole, la compagne de mon neveu Noé. Souvent ainsi, j'associe les gens que je rencontre à des personnes de mon entourage. Les fenêtres de la salle à manger donnent sur la campagne, des buttes où paissent des vaches normandes. Au-delà de la rivière, l'ancienne usine en briques qui traitait l'amiante. Aujourd'hui, le site est repris par une nouvelle technologie. On racle le sol, pollué sans doute, pour construire des bâtiments modernes, à droite du pont, en amont. À la fin du repas, le temps reste couvert malgré des trouées de ciel bleu et une chaleur plus sensible. Je dépasse l'écluse du moulin Auger, presque original, avec ses murs crème et bordés de touffes d'arômes blancs et de santolines jaunes feuillage gris. J'avance sous le château de la Mode Serrant, très haut sur son coteau à ma gauche. En contrebas du château se trouve une maison dont le chemin d'accès suit longtemps en surplomb le chemin de halage. Je vois, tout petit de loin, avancer sur ce chemin un homme et son gros chien noir qui court, le dépasse, s'écarte, revient. Cet homme part-il vers les champs, vers la boîte aux lettres, au bout de son chemin. Il s'éloigne de la maison où il a dû prendre un repas chaud, puis un café. Combien de fois, dans les jours pluvieux comme dans les jours splendides de l'été, n'ai-je suivi des yeux ainsi le départ des hommes de la maison après le repas. Mon père, mes frères, les commis, les voisins venus aider, affairés au foin, à la moisson, à l'abattage d'une haie, au débitage d'un grand arbre pour faire du bois de chauffage pour l'hiver. Je marche au même rythme, sur le même axe que cet homme en parallèle. Je ne sais rien de lui. Pourtant, un temps, nous marchons ensemble. Puis nos routes, nos vies se sépareront à nouveau. Et le grand chien noir, heureux, continuera de courir à droite à gauche. Je traverse ensuite une campagne plus riche, une zone d'élevage intensif avec de superbes troupeaux de races différentes sur les prairies et, çà et là, des fermes entourées de grandes stabulations neuves. Au bord du chemin, à plusieurs reprises, je dépasse des cerisiers sauvages aux branches chargées de guignes vert amandes qui se fondent encore dans le feuillage. Nuée de cerises, encore perle céladon, un merle en vigie. Nuée de cerises, encore perle céladon, un merle en vigie. L'écorce de mes pensées, aussi fine que celle du merisier, se fait tendre papier. L'écorce de mes pensées, aussi fine que celle du merisier, se fait tendre papier. Plus loin, je longe un pré bordé à hauteur des épaules par un mur de pierre couverte de vieilles mousses épaisses. Puis la rive suit un long moment une haute falaise arborée. Le chemin serpente dans la verdure, envahi parfois par de vastes nuages parfumés de chèvrefeuilles. Sur l'autre rive, plate, de gros vieux saules argentés sont alignés dans un pré très vert où broute un troupeau jaune clair. La gamme des verts est infinie. Le vert bleuté des frênes, le vert gris des saules. Mais celui que j'aime par-dessus tout, c'est le vert cru et tendre des herbes, des fougères neuves, des touffes d'iris. Je m'arrête pour les noter sur mon carnet et j'écoute. Aucun bruit de moteur, de ville, de travaux. Seul le vif gazouillis, épais comme une pâte feuilletée, des oiseaux. Parfois le croassement d'un corbeau, un claquement d'ailes, un très léger frémissement de feuilles. Une fois ou deux, le craquement de bois sec d'une branche. Quelques rares passages d'insectes. Lointain, un meuglement. Une bruine douce se remet à tomber. J'enfile ma cape et continue d'avancer. La végétation mouillée paraît encore plus dense. Beaucoup d'orties, de fougères. Parfois, tout en fleurs dans les bosquets, un grand buisson d'églantines roses. Les gouttes de pluie forment des petites boules de vif argent sur les feuilles drues des iris sauvages. Je m'arrête pour les photographier. C'est alors que je découvre de tout petits bébés poules d'eau cachés sous cette touffe. Je voudrais les photographier aussi, mais la mer intervient, bat le rappel. Au ponton de l'écluse suivante, une belle toux cabanée attend l'éclusier. Migration d'anguilles, une toux loin de la Loire remonte la Mayenne. Migration d'anguilles, une toux loin de la Loire remonte la Mayenne. Voilà, deux fougères en libellule sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroussère dont je reprendrai le fil la semaine prochaine. En attendant, passez du bon temps à l'écoute de Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, et n'oubliez pas de sortir avec votre carnet de haïku et de noter tout ce qui arrive.
So won't you give him back?